Nous continuons nos enquêtes bibliques. Alors aujourd'hui, c'est une vraie enquête puisqu'on va chercher qui a tué Jésus. Type d'enquête policière, mais enfin, comme ça s'est passé il y a 2000 ans, certains indices ont disparu. Et puis après tout, c'est pas tout à fait un jeu de Cluedo. Mais pourtant, dans le texte biblique lui-même, on a de nombreux indices pour essayer de répondre à cette question. Alors, l'arrestation, le procès de Jésus, et puis après sa mort sur la croix, nous sont racontés dans les quatre évangiles. J'ai choisi de vous le lire dans l'évangile de Luc. Bon, moi j'aime bien Luc, mais en fait c'est assez proche des autres. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi j'ai choisi Luc, mais en fait vous pouvez aller voir chez les autres, le récit est assez proche. Et juste, je vous annonce qu'on aura la totalité de ce qu'on appelle ce temps de la passion, en tout cas de l'arrestation de Jésus, de son procès puis de sa mort. On aura une lecture continue dans l'évangile de Jean cette fois-ci, le soir du vendredi saint à 20h30 ici même. Donc lecture biblique et accompagnée par l'orgue, juste la lecture pour de temps en temps méditer un peu ces textes qui sont si importants. Mais pour ce soir, donc dans l'évangile selon Luc, au chapitre 22, à partir du verset 66, et puis après le chapitre 23 avec quelques coupures. Quand il fait jour, les anciens du peuple et les chefs des prêtres et les maîtres de la loi se réunissent. Ils font amener Jésus devant leur tribunal et lui demandent « Est-ce que tu es le Messie ? Dis-le-nous. » Jésus leur répond « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si je vous pose une question, vous ne me répondrez pas. Mais à partir de maintenant, le Fils de l'homme va être assis à la droite du Dieu puissant. » Alors tous lui disent « Donc toi, tu es fils de Dieu ?» Jésus leur répond « Vous le dites vous-même, je le suis. » Alors ils disent « Nous n'avons plus besoin de témoins, en effet, nous avons entendu nous-mêmes les paroles de sa bouche. » Ensuite ils se lèvent tous ensemble et ils emmènent Jésus chez Pilate. Là, ils se mettent à accuser Jésus en disant « Nous avons trouvé cet homme en train de pousser notre peuple à la révolte. Il empêche les gens de payer l'impôt à l'empereur. Il dit qu'il est lui-même le Messie, un roi. » Pilate demande à Jésus, « Est-ce que tu es le roi des Juifs ?» Jésus lui répond, « C'est toi qui le dis. » Pilate dit au chef des prêtres et à la foule, « Je ne trouve pas de raison de condamner cet homme. » Mais les gens insistent en disant, « Dans son enseignement, il pousse le peuple à la révolte. Il a commencé en Galilée, puis il est allé dans toute la Judée, et maintenant il est venu ici. » Pilate entend cela et il demande, « Est-ce que cet homme est galiléen ?» On lui répond que Jésus est de Galilée. C'est Hérode Antipas qui gouverne cette région. Il est lui aussi à Jérusalem. À ce moment-là, alors Pilate envoie Jésus chez Hérode. Alors j'ai coupé un tout petit peu, Jésus part chez Hérode, et Hérode se moque de lui, mais ne trouve rien à redire, et donc il le renvoie chez Pilate, sans rien lui reprocher. Et voici donc la suite. Pilate réunit les chefs des prêtres, les autorités et le peuple. Il leur dit, « Vous m'avez amené cet homme en me disant, il pousse notre peuple à la révolte. Alors je l'ai interrogé devant vous. Vous, vous l'accusez, mais moi, je n'ai pas trouvé de raison de le condamner. Hérode Antipas n'en a pas trouvé non plus, puisqu'il l'a renvoyé chez nous. Cet homme n'a donc rien fait pour mériter de mourir. C'est pourquoi je vais le faire frapper et ensuite je vais le libérer. » Les gens se mettent à crier tous ensemble, « Fais mourir cet homme et libère-nous Barabbas. » Barabbas a tué quelqu'un quand les gens se sont révoltés contre les Romains dans la ville. C'est pour cela qu'il est en prison. Pilate, lui, veut libérer Jésus. Et de nouveau, il parle à la foule. Mais les gens crient, « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Une troisième fois, Pilate prend la parole et dit, « Qu'est-ce que cet homme a fait de mal? Je ne trouve pas de raison pour le faire mourir. C'est pourquoi je vais le frapper et le libérer. » Mais les gens insistent en criant très fort, « Crucifie-le! Crucifie-le !» Et leurs cris sont les plus forts. Alors, Pilate décide de faire ce que la foule demande. Il libère celui qu'on a demandé, Barabbas. Pourtant, on l'avait mis en prison parce qu'il avait tué quelqu'un pendant une révolte contre les Romains. Et Pilate livre Jésus à la foule en leur disant, « Faites-lui ce que vous voulez. » Les soldats emmènent Jésus. Il rencontre Simon, un homme de Cyrène qui revient des champs. Il l'oblige à mettre la croix sur son dos pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande foule suit Jésus. Des femmes pleurent et sont dans le deuil à cause de lui. On emmène aussi deux autres hommes, des bandits, pour les faire mourir avec Jésus. Ils arrivent à l'endroit appelé le crâne. Là, les soldats clouent Jésus sur une croix. Ils clouent aussi les deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Qui a tué Jésus? Question assez étonnante. Finalement, je pense que c'est important. Mais c'est une question qui a plutôt un caractère historique. D'ailleurs, Jésus, aujourd'hui, personne ne remet en cause son historicité et personne ne remet en cause le fait également qu'il ait été crucifié. Donc, c'est un événement tout à fait majeur, mais pas tout à fait un événement chrétien non plus, puisque à l'époque où Jésus se fait crucifier, les chrétiens n'existent pas encore. Bon. Mais par la suite, ils vont essayer d'interpréter cette mort et cela va avoir de nombreuses conséquences, théologiques particulièrement, mais aussi historiques. Parce que la réponse à qui a tué Jésus, eh bien, peut-être a des conséquences, enfin certaines réponses ont des conséquences effroyables. Parce que, eh bien, la première réponse qui est donnée, eh bien, ce sont les Juifs qui auraient tué Jésus. Alors, les Juifs, du coup, deviennent un peuple déicide, puisqu'ils ont tué le Christ. Et donc, ces Juifs-là, eh bien, méritent, eux également, la mort. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas si longtemps, des gens se sont emparés de cette accusation des Juifs qui auraient mis Jésus à mort pour justifier la disparition du peuple juif. On voit donc que certaines réponses ont des conséquences tout à fait effroyables. Pourtant, si on lit le texte, eh bien, rien n'est si simple. En effet, vous l'avez entendu, et puis j'ai pas tout lu, mais bon, regardez un peu. Il semble bien que les autorités religieuses juives, c'est-à-dire ce qu'on appelle les sacrificateurs, les grands prêtres, et le Sanhédrin, c'est-à-dire une sorte de tribunal religieux, cherchent à faire mourir Jésus. Évidemment, il est assez dérangeant, cet homme-là, qui remet en cause la loi, leur interprétation de la loi, surtout leur interprétation, ce n'est pas vraiment la loi qui remet en cause. Alors, finalement, il voudrait bien le voir mort. Et ça, tout au long de l'Évangile, on voit l'hostilité qui va poindre et petit à petit grossir et se mettre en place contre Jésus. Alors, suivant les Évangiles, ça n'arrive pas au même moment. Chez Luc, c'est dès le début. Chez Jean, la décision de la mise à mort de Jésus va interparler. Enfin, cette volonté, en tout cas, d'essayer de le mettre à mort, va intervenir après la mort et la résurrection de son ami Lazare. Donc, on voit des autorités juives qui cherchent à faire mourir Jésus. Pourtant, vous l'avez entendu, tous les Juifs, je vais revenir sur ce terme parce que c'est un peu problème de traduction également, ne cherchent pas à faire mourir Jésus. Déjà, vous avez vu, on l'envoie chez Hérode. C'est pour ça que j'ai choisi Luc, parce que ça n'existe pas dans les autres évangiles. On l'envoie chez Hérode, qui lui est plus ou moins gouverneur de Galilée, donc une province au nord de Jérusalem, et Hérode le renvoie. Voilà déjà un juif au moins, et important, qui ne participe pas à cette histoire. Et puis, vous l'avez entendu ensuite, dans la foule, une fois qu'on le mène à la croix, les femmes pleurent, et ces femmes habitantes de Jérusalem, elles sont également des femmes judéennes. Et alors je dis judéennes parce qu'en effet, le mot juif, le terme judaios qui se trouve dans le Nouveau Testament, est bien trop souvent traduit par juif, alors qu'en fait, on peut les traduire aussi par les habitants de la Judée. Personnellement, je préfère parce que, et d'ailleurs, la Nouvelle Bible Second arrive dans sa traduction à faire la distinction entre les habitants de la Judée, les Juifs, enfin, c'est parfois complexe, pour pas non plus revenir à cette interprétation où les Juifs seraient responsables de la mort de Jésus. Déjà, en plus, vous l'avez bien entendu, ils n'ont pas le pouvoir de vie ou de mort. Ils n'ont surtout pas le pouvoir de le mettre à mort. Donc, ils l'amènent où ? Chez Pilate. Donc, est-ce que c'est Pilate qui serait responsable de la mort de Jésus ? La tradition, et encore récemment dans un roman d'ailleurs que j'aime beaucoup, d'Éric Emmanuel Schmitt, qui s'appelle « L'Évangile selon Pilate », on essaye de dédouaner Pilate. D'ailleurs, Pilate, lui, s'est lui-même dédouané, puisque dans l'Évangile de Matthieu, il nous dit, après avoir remis Jésus pour qu'on l'envoie à la mort, il dit « Je me lave les mains et le sang retombe sur vous ». Moi, ça me semble un peu facile. Bon, je ne veux pas taper sur Pilate, hein, mais c'est quand même lui qui avait le pouvoir. Il avait même les pleins pouvoirs. Alors, certes, il résiste, il ne veut pas envoyer Jésus tout de suite à la mort, mais tout de même, lorsqu'il faut qu'il arbitre entre la paix à Jérusalem, parce que tous ces gens qui vocifèrent là et qui veulent absolument la mort de cet homme, et puis une vraie justice, eh bien, il choisit la paix, la tranquillité. Et après tout, il s'en lave les mains, mais il envoie tout de même Jésus à la mort. Et qui conduit Jésus sur la croix ? Et qui cloue Jésus sur la croix ? Les Romains. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas que les Juifs qui sont responsables. Les Romains seraient un peu responsables aussi. Ensuite, souvent on a dit, c'est Judas. Alors ça, vous verrez la semaine prochaine avec Louis Pernot, vous en saurez beaucoup plus. C'est Judas, le méchant, celui qui a trahi Jésus. Mais à y regarder là aussi d'un peu plus près, c'est plus complexe. Parce que la tradition a interprété le geste de Judas comme une trahison. Certes, c'est pas bien glorieux. Mais en réalité, si vous lisez, jamais on nous dit que dans le texte, aucun, que ce soit, quel que soit l'évangile, que Judas a trahi. On nous dit qu'il livre Jésus aux autorités. Et finalement, le verbe « livrer » peut même être positif en grec. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est un verbe qui peut être un peu, qui a un caractère positif. Comme s'il livrait Jésus aux autorités en disant « finalement, cet homme-là, ce Messie, celui que je suivis, je m'attendais à ce qu'il fasse des choses, et puis finalement, je trouve que peut-être il se trompe. » En fait, le tort de Judas serait éventuellement d'enfermer Jésus dans ses projections, dans ses images. Tout comme nous, nous enfermons bien trop souvent Dieu dans nos images, dans nos désirs, dans notre volonté. Eh bien, Jésus résiste et ne fait pas la volonté, en tout cas ce que Judas attend. Donc il le livre aux autorités qui lui semblent être ceux qui pourraient être des redresseurs de tort. Mais savait-il que Jésus allait mourir ? Rien n'est moins sûr. Alors, on a essayé aussi... Je ne voudrais pas non plus trop taper sur Judas, je trouve qu'il y a assez de gens qui ont tapé sur Judas. Mais tout de suite, après, au début du christianisme, on a essayé de sauver Judas en disant finalement, Judas, il a fait ce qu'il fallait faire, il a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire livrer Jésus pour que Jésus meure. Finalement, Jésus devait mourir et c'est grâce à Jésus, c'est grâce à Judas que Jésus va pouvoir accomplir sa mission. Alors là, je ne suis plus du tout d'accord avec c'est ce que raconte plus ou moins l'évangile de Judas, qui est un très très vieux texte, ce qu'on appelle les apocryphes. Là, je ne suis plus du tout d'accord parce qu'on n'est plus du tout dans l'histoire, on est bien dans la théologie, là, surtout complètement même. Parce que lorsqu'on dit ça, on fait une interprétation dite sacrificielle, en fait, de la mort de Jésus. C'est-à-dire que, en quelque sorte, c'est même Jésus qui serait responsable de sa mort. Je dirais même c'est Dieu qui est responsable de la mort de Jésus. Jésus a fait un sacrifice, il a donné sa vie Et ce sacrifice ferait que nous, désormais, toute l'humanité est lavée de ses péchés. C'est-à-dire que, comme si c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à comprendre, quand j'étais petite, on m'apprenait ça, alors moi, ça s'appelait la jeune armée, mais que ce soit le catéchisme, l'école biblique, peu importe, on m'apprenait ça, que j'allais être lavée de mes péchés par le sang du Christ. Alors, on me montrait, j'avais un cœur tout noir, et puis après, on me mettait, je tirais, puis il y avait du rouge, le sang de Jésus, puis après, un cœur tout blanc. Alors là, ça me laissait un peu pantoise. Mais Jésus, la mort de Jésus pourrait nous laver. Une sorte de mort expiatoire, une interprétation de ce qu'on appelle le bouc émissaire. Alors c'est vrai. Et du coup, Dieu, alors là c'est encore pire, ça donne une image de Dieu qui moi m'épouvante. Ce Dieu, on m'a toujours raconté que c'était un Dieu d'amour, qui donne son fils, qui fait mourir son fils. Alors là, j'ai beaucoup de mal aussi. Bien, c'est vrai que dans les textes du Nouveau Testament, il faut quand même reconnaître, il faut les affronter de temps en temps, il y a ces notions de sacrifice. Mais pour comprendre ce sacrifice, il faut savoir que dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs types de sacrifices. Il y a ces sacrifices qu'on appelle expiatoires. Ça correspondrait un peu à ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est-à-dire la confession du péché. Maintenant, on n'a plus besoin de sacrifice, il suffit de prier, c'est déjà merveilleux, pour demander pardon à Dieu. Ces sacrifices expiatoires, on offrait une bête, on l'immolait à Dieu pour se faire pardonner, en fait. En quelque sorte, on était dédouané de nos fautes et de nos péchés en immolant une bête. Bon, évidemment, comme on recommençait, fallait de nouveau immoler une bête. Hein. C'était quelque chose à recommencer, Ça, c'est un type de sacrifice. Et en général, c'est un sacrifice animal, d'ailleurs. Puis, il y a un autre type de sacrifice, beaucoup plus intéressant dans l'Ancien Testament. C'est ce que j'appellerais le sacrifice de communion, qu'on retrouve même, en quelque sorte, dans l'Eucharistie ou dans la scène. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on donne pour nous dédouaner. Non. C'est un sacrifice, soit une bête, soit ça peut être aussi des sacrifices végétaux, des offrandes végétales, les prémices en général, les plus belles, les premières fleurs, les premières gerbes que l'on offre à Dieu, non pas pour se faire pardonner, mais pour être en communion avec lui. C'est un sacrifice qui nous permet d'être en communion, en alliance avec Dieu. C'est une sorte de repas que l'on partage avec Dieu. Et lorsque dans l'évangile de Jean, on nous présente Jésus comme l'agneau de Dieu, il s'agit bien de cela, l'agneau pascal. Et le sacrifice au moment de la Pâque est exactement ça dans le judaïsme, c'est un sacrifice de communion. D'ailleurs, il y a ce fameux repas pascal, ce céder que l'on partage en famille et avec Dieu. Il s'agit bien de communion, d'alliance. Alors dans ce cas, eh bien, peut-être que l'on peut faire une interprétation sacrificielle, mais cette interprétation sacrificielle, c'est pas du tout ce qu'on nous a appris au catéchisme et tout, que Jésus serait mort pour nous et que désormais tout le monde est pardonné. La grâce, elle était là avant, et elle est toujours là, mais il n'y avait pas besoin de la mort du Christ pour avoir la grâce. Non, ce sacrifice, en quelque sorte, vient sceller une nouvelle alliance. C'est très symbolique tout cela. Et ce n'est pas toujours simple à comprendre. Mais on peut même aller au-delà. Parce que dans le langage courant, on dit bien qu'il y a des gens qui se sacrifient pour les autres. Et peut-être que c'est dans ce sens-là qu'il faut entendre le sacrifice aussi du Christ. En réalité, il a mis en avant bien plus la force de son message, le fait que son message reste vivant quoi qu'il arrive, le message est bien plus important que sa propre vie. Alors oui, il n'est certainement pas parti au début de sa mission pour mourir. Non, je ne pense pas qu'il avait ça en tête et je ne pense pas que Dieu avait ça en tête. Ce n'était pas du tout quelque chose préécrit. Il devait mourir sur une croix pour que tout aille mieux après. D'abord, ce n'est pas si simple, je ne suis pas sûre que tout aille mieux après, hein. Mais ça, c'est un autre sujet. Il s'est, en quelque sorte, il est allé jusqu'au bout de ce qu'il croyait. Il n'a jamais renoncé à son message. Son message était plus important que sa vie. Et d'ailleurs, du coup, son message est resté vivant. Parce que s'il n'avait pas été jusqu'au bout du bout, eh bien, on ne parlerait probablement plus de lui. Il y a d'autres personnes qui se sont sacrifiées. Il y a toujours des moments, enfin on emploie ce mot-là, bien que je ne l'aime pas, des moments extrêmement difficiles, des temps difficiles. Et je pense toujours à cette jeune femme corse qui est morte lors de la dernière guerre mondiale, Danielle Casanova. Alors ce matin, on m'a dit, t'es gonflée quand même, tu prends une communiste comme exemple. Bon, parce que c'est vrai, Danielle Casanova n'était certainement pas croyante, et en plus, elle était communiste. Ce qui est... Mais bon, pendant la dernière guerre mondiale, elle était résistante communiste, donc elle s'est fait arrêter avec son réseau de femmes résistantes. Et elle, comme elle avait quelques appuis, probablement, on lui a proposé eh bien, de ne pas être déportée, de rentrer chez elle. Elle a refusé. Elle a refusé en disant non, je ne partirai que si nous sommes toutes libérées. Et elles sont toutes mortes en déportation. Alors peut-être que c'est inutile. Mais d'un autre côté, je vous assure que cette histoire, après la mort de Danielle Casanova, elle a aidé d'autres à aller et à se battre. Et en quelque sorte, le message était plus important que sa propre vie. Et c'est peut-être cela que l'on peut entendre aussi dans la vie et dans la mort du Christ. Alors, au terme de cette enquête, qui a tué Jésus ? Eh bien, ce n'est pas tout à fait les Juifs, ils ne sont pas vraiment que responsables. Ni les Romains, ni Judas. Et en fait, je n'ai pas la réponse. Mais ce que je peux dire, c'est que le message de Jésus, il est encore vivant. J'irai même plus loin. Le Christ est ressuscité. Et donc, le Christ est encore vivant. Donc, je voudrais décaler ma question. Non plus qui a tué Jésus, mais qui tue Jésus aujourd'hui ? C'est bien ça, la vraie question qui nous rejoint. Parce qu'on peut toujours faire une enquête sur ce qui s'est passé il y a 2000 ans et dire, ah bah si c'était comme ci, si c'était comme ça, c'est un tel qui est plus fautif que l'autre. Peu importe. Qui tue Jésus aujourd'hui et qui rend vivant Jésus aujourd'hui ? Vous savez, le message du Christ, c'est à nous maintenant de le rendre vivant. Et c'est à nous de faire que Jésus puisse vivre à nouveau. C'est à nous de nous positionner. Parce que nous aussi, nous pouvons être comme les Juifs, comme les Romains, comme Judas, et même comme Pierre qui le renie, comme tous ceux qui l'ont abandonné, et en quelque sorte le laisser aller à la mort tout seul et le laisser mourir à nouveau. Mais nous pouvons aussi affronter la vie, nos responsabilités, entendre son appel. C'est cela aussi peut-être qui s'est passé le matin de Pâques pour Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, elle est là, elle pleure dans le jardin. Elle a perdu Jésus. Elle est triste. Elle est triste, mais petit à petit, elle va sortir de son chagrin, sortir de là où elle est enfermée, pour reconnaître petit à petit, dans un homme, le jardinier, la personne du Christ. Elle va entendre son appel, elle va en plus répondre à son appel, et elle va aller annoncer cette bonne nouvelle, Christ est vivant. Et peut-être que c'est ça qui nous est demandé. En effet, nous pouvons aussi aujourd'hui choisir d'être du côté du mal et continuer à tuer Jésus encore et encore, mais nous pouvons choisir aussi de le faire vivre. De le faire vivre, comme Marie-Madeleine a reconnu le Christ dans un jardinier, et bien de reconnaître aussi le Christ dans notre prochain. Vous savez, à la fin de l'évangile de Matthieu, le Christ avec cette parabole du jugement dernier dit qu'à chaque fois qu'on fait le bien pour notre prochain, on lui fait du bien à lui. Et bien à chaque fois que l'on accepte la main que nous tend notre prochain et que nous aussi nous tendons la main à notre prochain, nous rendons le Christ vivant. Et lorsqu'on fait le contraire, on le tue à nouveau. Et bien aujourd'hui, c'est de notre responsabilité que le Christ ne meure pas, qu'il n'y ait plus de croix. C'est notre responsabilité. Pour cela, il nous faut construire un monde meilleur, faire en sorte que notre monde devienne meilleur et qu'il tende ainsi vers ce royaume que Dieu espère et ce royaume où Christ est vivant. Amen.